Chapitre 5. Pendant les 2 années qui suivirent la naissance de ma fille, bien des fois elle fut la cause d'un renouveau d'espoir. Il l'aimait, et quand je le voyais sourire devant elle, quand il était sous ce charme de l'enfant qui séduit les plus froids, j'espérais qu'une lueur de son affection glisserait jusqu'à la mère. Car, bien que j'eusse mis en œuvre tous mes faibles pouvoirs pour garder mon bonheur, de jour en jour, j'avais essayé de saisir une forme plus vague, plus indécise, et il avait fui devant moi comme le vaisseau fantôme de la légende. Non seulement Louis était redevenu le mari froid, indifférent des premiers temps, mais je sentais en outre sous sa froideur une hostilité grandissante. Il s'abandonnait maintenant sans se contraindre à cette humeur tyrannique qui énervait ma bonne volonté. Chaque détail de la vie matérielle devenait un sujet de discussion et même de scènes violentes. Désœuvré, ennuyé, ne s'intéressant à aucune des questions qui peuvent nourrir l'intelligence, soit d'une façon spéculative, soit d'une façon pratique, il donnait libre carrière à des tendances tracassières que son désœuvrement développait. « Ne pourriez-vous, disais-je à Marien, devenu par la force des choses le témoin de scènes regrettables et le confident de bien des soucis, ne pourriez-vous essayer de l'occuper ?»«
L'occuper ? À quoi ?»«
Par exemple, essayez qu'il lise avec vous des ouvrages intéressants. Vous en lisez journellement, vous qui, comme lui, n'avez point en somme d'occupation forcée. » Essayez de changer l'essence d'un arbre en une autre essence, me répondit-il avec une vivacité dans laquelle je découvris avec surprise un peu d'amertume. Peu à peu, sous l'influence des froissements quotidiens qui répondaient à mes efforts, l'irritation domina mon caractère, balayant comme un hôte malfaisant les élans de mon cœur et ses soumissions. En dépit des propos blessants, des récriminations, je me révoltais. Et, voyant qu'en lui sacrifiant mes goûts, je n'arrivais pas encore à lui plaire, je prenais le parti d'agir selon mon bon plaisir dans les menus fêtes de chaque jour. « Ma vieille fine, disais-je quelquefois tout irrité, quel ménagement est donc à garder? Il est impossible de le satisfaire. Ne mettez aucun tort de votre côté, ma chère mignonne. Peut-être bien que ça s'arrangera tout de même. Il se fatiguera d'être berdassier et arguignou, en vous voyant si douce. » Elle n'en croyait rien, ni moi non plus. D'ailleurs, ma bonté naturelle s'oblitérait, l'amertume s'établissait dans mes sentiments et mes pensées. Et pourtant, devant un mot de regret, une parole affectueuse, j'étais prête à l'aimer encore de toutes mes forces. Si son étrange éloignement pour une femme qui ne demandait qu'à l'aimer n'avait pas suffi pour apporter la conviction dans mon esprit, des indices certains eussent confirmé mon idée. Je n'en doutais plus, il adorait encore celle qui, cependant, l'avait abandonné pour épouser un homme plus riche que lui et dont la réputation, je le savais maintenant, était très équivoque. Pendant ces 2 années qu'elle avait passées en partie dans le Midi, les circonstances les avaient forcément séparées. Mais, connaissant son pouvoir, elle savait trop bien aviver la passion qui brisait ma vie et mes espérances. Quand une lettre arrivait à Rocheplate, et malheureusement pour moi, elle lui écrivait souvent, je devais m'attendre à une journée mauvaise et agitée. Elle était revenue depuis peu de temps aux environs de Nantes et nous avait prié de rompre la monotonie de sa vie qui s'écoulait, selon son expression, entre la campagne qu'elle détestait et son mari toujours malade. Malgré une scène des plus vives, Louis n'avait pu me décider à l'accompagner et, au bout de 15 mortels jours, il était revenu plus sombre que jamais. Au milieu de mes tourments, seule ma fille me rendait à moi-même, chaud rayon de soleil dissipant les brumes épaisses et glacées. Mes yeux émerveillés suivaient les jeux du jour nouveau qui avait pénétré dans ma vie. Avec tout l'élan de ma jeunesse, je me joignais à la gaieté, au bonheur inconscient qui dilatait son âme d'enfant. Lorsqu'elle approchait son charmant visage du mien en balbutiant « Mère, je t'aime !» j'écoutais avec une sorte de recueillement les sons que ce mot faisait vibrer en moi. Quand, assise près de son berceau, j'éprouvais un charme indéfinissable à la regarder dormir, des pensées graves et sérieuses traversaient mon esprit. Mon cœur ému n'était plus irrité, et, penché sur elle, je priai pour que les joies de la vie lui fussent données. Malgré mes précautions pour cacher à mon père le chagrin qui me dévorait, je voyais que la quiétude du vieux logis était troublée. On me manifestait une affection plus vive, je surprenais des regards pleins d'inquiétude, et M. de Méran faisait des efforts surhumains pour ne pas céder à la bonté maladroite qui lui était habituelle et briser les vitres brusquement. Mon père ne sortait plus de son domaine. Ses forces diminuaient rapidement et, avec un chagrin intense, je le voyais s'incliner vers la terre comme un chêne à moitié abattu dont les dernières racines fléchissent quelque temps encore avant de se briser complètement. Qu'il m'eût paru bon de m'appuyer sur lui une fois encore en lui confiant mes angoisses. Les orages devenaient plus fréquents, mon cœur était plus découragé, je tombais dans la tonie morale et sentais que j'avançais à grands pas vers une crise aiguë. Un après-midi de juillet, je suis à ma place habituelle dans le salon et j'essaie vainement de m'absorber dans la composition d'une aquarelle. Ainsi qu'il y a 2 ans, ce sont les mêmes fleurs, la même vue, les mêmes objets. Mais comme tout est changé à mes yeux et en moi-même. Louis entre avec son air des mauvais jours. Il a reçu le matin une lettre de Madame Le Seine et, brusquement, aborde le sujet auquel il fait depuis quelque temps des allusions que je feins de ne pas comprendre. « Geneviève, me dit-il de son ton tranchant, vous écrirez aujourd'hui à Aline pour la prier de venir passer quelques jours ici. La pauvre femme a besoin de sortir de l'atmosphère de tristesse dans laquelle elle a fait vivre l'état de son mari. Si son mari est plus malade, ce n'est pas le moment de le quitter, répondis-je froidement. Je ne demande pas votre avis, je vous dis seulement d'écrire. Le Seine n'est pas en danger, vous le savez bien, et cette interminable maladie peut se prolonger longtemps encore avant la guérison, en supposant qu'il guérisse. Aline ne peut pas venir si vous ne la priez pas vous-même. Vous écrirez, vous m'entendez ? Je jette mon pinceau sur la table et je m'écris d'un ton résolu. Non, je n'écrirai pas. Me voici dans la crise que je prévois depuis quelque temps. Ce n'est pas le moment d'hésiter et, du reste, j'en suis arrivé à cet état moral voisin du désespoir qui ne recule plus devant la conséquence des actes. Louis se promène un instant avec un petit sifflement que je sais être le précurseur d'un orage terrible. Mais, dût-il me tuer, je ne céderai pas. Suis-je indiscret, reprend-il avec ce calme affecté qui me terrifie. Suis-je indiscret en vous demandant de vous expliquer une fois pour toutes sur la raison d'un refus inqualifiable ? Dans un revirement subit, mon irritation est remplacée par une émotion profonde. Je redeviens ce que j'étais, ce que je suis encore, car, malgré mes affirmations, bien des jours passeront avant que je sois parvenu à la perte totale de l'espérance. « Ne m'en veuillez pas, Louis, » dis-je d'une voix plus attendrie que je n'aurais voulu. « Mais pourquoi n'avouerai-je pas avec franchise ce que vous savez exister ? Je suis jalouse d'elle, de vos souvenirs. Je sais, oui, je sais que vous l'avez beaucoup aimée. Comment voulez-vous que je l'invite à venir ici ?» Adossé à la cheminée, son visage fin et distingué impassible, il ne répond rien. Dans un mouvement spontané, je m'approche de lui et tente un dernier effort. « Écoutez-moi, je vous en conjure. Vous m'avez fait une triste existence, mais tout peut se réparer. « Oh, Louis, m'écriai-je avec ardeur, pourquoi ne m'aimes-tu pas ? Ne suis-je pas jeune, aimante ? Oublions, dis, veux-tu ? Recommençons notre vie. Nous pouvons encore être bien heureux. » Il me repousse vivement d'un air impatient et répond « Dieu, Geneviève, que je suis fatiguée des scènes. Avez-vous fini ?»« Oui, répondis-je en reculant de quelques pas. Fini pour toujours. » Ah, si une âme fière s'est jamais sentie amoindrie, ce fut bien la même dans ce moment où, suppliante, je mendiais vainement son affection. J'éprouvais un amer dégoût pour moi-même en songeant que, depuis un instant, mon amour pur, loyal, était en lutte avec celui de cette femme que je méprisais. « Est-ce en me contrariant sans cesse que vous arriverez à me plaire ?» reprit Louis. « Au reste, je ne prie pas, je ne demande plus, je commande. Vous me ferez la grâce de mettre de côté votre absurde jalousie et d'écrire à Aline.
Jamais.
Pâle de colère, il s'élança sur moi, et, me prenant les poignets, il les serra avec tant de force que je ne pus retenir un cri. Mais il n'entendait rien et me jeta brutalement dans un fauteuil.
« Vous avez un caractère entêté absolument odieux, Geneviève, » me dit-il, les dents serrées. « Vous céderez. »
« Non, je n'inviterai jamais, jamais, à venir chez moi une femme que vous aimez encore. »
J'ignore ce qu'il serait advenu sans l'arrivée de M. Marien.
Louis abandonna ma main qu'il serrait toujours d'une étreinte furieuse et s'écria d'une voix vibrante de colère, malgré ses efforts pour se dominer.
« Je regrette, mon cher, que vous ayez encore l'ennui de tomber dans une scène de ménage. Vous savez qu'il est difficile de garder son sang-froid devant certains caractères. »
Il sortit précipitamment et je ne le revis pas de la journée.
Monsieur Marien vint s'asseoir auprès de moi. Ce n'était pas chose nouvelle que sa sympathie délicate essayant d'adoucir la douleur dont il était le témoin presque quotidien. Il prit ma main froissée en disant « Pauvre enfant, pauvre petite !»
J'ouvris les yeux et le regardai avec une expression probablement bien désolée, car ses traits se contractèrent sous le coup d'une émotion excessive.
« C'est fini, il n'y a plus aucun espoir de le ramener, » murmurai-je.
« Chut, chut !» répliqua-t-il d'un ton compatissant qui me faisait toujours du bien. « N'allez pas aux extrêmes. La situation la plus tendue peut se modifier. »«
C'est ainsi que vous devez me parler, mais vous n'en croyez rien !» répondis-je avec désespoir. « Depuis quelque temps, je pense à une séparation. Mais, à cause de mon père, c'est impossible, n'est-ce pas ?»«
Et si votre père n'était pas là, vous me diriez, à cause de ma fille, c'est impossible. »
Et si vous n'aviez pas votre fille, vous reculeriez encore jusqu'au dernier moment devant l'éclat d'une séparation.
Je connais bien votre nature si délicate, ma pauvre sensitive.
C'était vrai, au moins lui me connaît et m'apprécie. Je ne puis dire combien m'est précieuse la sympathie de cet homme, plein de cœur et d'intelligence.
Bien des fois, j'ai entendu Louis se moquer de Marien, critiqué comme une sérieuse dérogation à la bonne éducation, la coupe de ses habits et l'oubli d'usage mondain purement conventionnel. Chose étrange que d'abandonner si complètement sur ce terrain la proie pour l'ombre. Je me levai brusquement et marchai à grands pas en pressant mes mains avec angoisse. Je ne répondais rien aux paroles qu'il m'adressait et Dieu sait cependant que j'en étais reconnaissante qu'elles tombaient sur mon cœur froissé et désespéré comme les gouttes d'un baume rafraîchissant.
« Votre amitié me soutient, » dis-je enfin avec émotion, « mais je suis hors de moi aujourd'hui, je ne puis parler raisonnablement. Il me faut ma fille pour me calmer. Voulez-vous dire à la fine de me l'amener ?»
Il sortit aussitôt, après avoir porté ma main engourdie à ses lèvres. Un instant après, la fine, tremblante de colère et d'émotion, entrait dans le salon en tenant dans ses bras Gilberte endormie. La vue de ce petit visage adoré et paisible calma en partie mon agitation. Je l'étendis dans un fauteuil, en face de moi, et restai longtemps silencieuse dans cette espèce d'engourdissement qui suit les violentes émotions.
« Ma pauvre petite vieille, dis-je, où sont les espoirs heureux qui ont précédé la naissance de mon enfant ?»
Elle essaya de parler, mais les paroles s'étranglèrent au passage et nous retombâmes dans notre silence.
« Que devenir ? » repris-je. « Il ne faut plus espérer, tu le vois bien, maintenant. »
« Ma mignonne, répondit la fine, il n'y a rien d'haïssable comme le découragement. »
« Pas découragé, c'est facile à dire. »
répliquai-je avec irritation. Sa vieille figure ratatinée, empreinte d'une expression sérieuse, elle me dit avec conviction
« Écoutez, mon trésor, je ne suis point dévote, mais j'aime bien le bon Dieu. »
« Je sais, dis-je, en courbant la tête sous un souffle qui me parut assombrir encore ma tristesse.
J'ai connu bien des femmes malheureuses que ça consolait de… »
Elle s'interrompit devant un geste d'impatience que je ne pus réprimer. Je savais d'avance ce qu'elle allait me dire.
« Je ne suis point dévote, mais j'aime bien le bon Dieu. »
Cette phrase, résumée bien simple de toute sa théologie, était un appel à mes sentiments religieux
enfouie sous la nouveauté d'une vie qui m'avait complètement désarçonné. Il me produisit l'effet d'une condamnation à mort. Je déclarai n'avoir plus d'espoir, mais je voulais qu'on le ravivât, je voulais qu'on me parlât d'espérances humaines et non d'une résignation, d'un amour supérieur qui était à mes yeux la confirmation de leur perte.
« Oh, la fine, la fine !» dis-je en pleurant. « C'en est donc fait ! Tu crois que je ne puis rien espérer maintenant ?»«
Ce n'est pas ce que je veux dire, mon trésor, mais je vous assure que ça m'a bien aidé dans ma vie de penser au bon Dieu. » Je ne répondis pas et pris sur moi ma fille qui s'éveillait. Son regard si pur souriait à mes pleurs comme à la gaieté, mais une heure viendrait trop tôt où elle aurait sa part de tristesse, et je songeais tout à coup plus nettement à l'appui moral qu'elle devait un jour trouver en moi. Je me dirigeais vers le courant dans lequel la fine voulait m'attirer.
« Je sais que tu as raison, » dis-je pensivement. « Il faudrait que je fusse forte, mais je suis mobile, inconséquente avec mes idées. »
« C'est bien de votre âge, mon cher trésor, » répondit la fine avec attendrissement.
« Eh bien, j'essaierai de faire comme toi, ma chère petite vieille, » dis-je en sanglotant. « J'essaierai d'obtenir du calme et du courage en m'appuyant sur mes croyances qui doivent devenir celles de ma fille pour qu'à son tour, elle ne se désespère pas devant l'épreuve. »
Je me levai tout énergique, mais subitement, avec ma logique habituelle, je m'écriai dans un élan de chagrin passionné.
« Ne me parle plus de rien, ne me dis pas de me résigner, car je ne veux pas croire que tout soit perdu. Ma vieille fine, depuis mon mariage, ce n'est pas le courage et la résignation que je demande dans mes prières, mais mon bonheur, mon cher bonheur, qui a fui et que je veux rejoindre. »
Quelques jours plus tard, j'étais sortie précipitamment dans le parc pour me reposer par quelques heures de solitude d'une scène faite à propos de rien. Je marchais longtemps sous l'empire des plus bizarres impressions. Il me semblait que tous les objets qui m'entouraient allaient me quitter et que, avant de partir, ils me regardaient avec une sympathique pitié. Peut-être était-ce une partie de moi-même, la jeunesse et l'espérance, qui se préparaient à émigrer pour laisser entrer dans la place une certitude austère. Saisi par la douleur que produisent les départs, je me disais que ma tête, cependant, n'était ni mal équilibrée ni romanesque. Je m'assis, pensive, sur un tronc d'arbre, essayant de me reprendre moi-même, de regarder en face et de sang-froid la vie qui m'était faite. Était-ce l'excès même de mon chagrin? Est-ce un retour sur moi-même, au souvenir des simples paroles de la fine? Est-ce le calme divin de cette nature que j'aimais tant, qui me remirent en présence de la source pure, limpide, où, jeune fille, je puisais mes impressions et mes idées élevées? Mais, pour la première fois depuis bien longtemps, je songeais à Dieu pour me dire qu'il devrait être, d'une façon plus directe, le fil conducteur de ma vie. Pour la première fois, j'envisageais, sans jeter des cris de désespoir et de révolte, la possibilité d'une vie dénuée de bonheur légitime et la nécessité de puiser dans une pensée haute le courage de supporter l'immense déception. Singulière flamme que celle qui s'échappait de mes facultés pour monter. Flamme de pensée, elle va à un principe supérieur, elle agite le cœur d'une émotion douce et vive à la fois, elle retrempe l'énergie, elle emporte d'un mouvement irrésistible vers les idées généreuses, elle donne de la vaillance, vit au-dessus du monde apparent, et, malgré la fière allure qu'elle fait prendre à l'intelligence, reste pure d'orgueil et de vanité. Un instant après, j'étais retombée dans mes idées orageuses qui disparurent également pour me laisser dans le rêve d'un amour partagé, dans ce bonheur plein de séduction auquel je ne voulais pas renoncer et dont la moindre parcelle, me semblait-il, m'eût conduite plus sûrement à Dieu que les réalités amères de ma vie. Au milieu de mes contradictions, je me levai pour retourner sur mes pas. En approchant de la maison, je reconnus avec surprise, sur le gravier des allées, le bruit de certains briscats disloqués et les discours affectueux que le cocher adressait à son cheval pour l'engager à conserver une attitude qui ressembla vaguement au trot. Il y avait bien des mois que le vieil équipage n'était venu à Rocheplate, et je précipitai mes pas avec la pensée que mon père, qui m'avait paru la veille moins affaissé, plus vivant, avait voulu me surprendre. En arrivant près du château, je vis M. de Méran s'agitant d'un air affairé devant plusieurs domestiques. Lorsqu'il m'aperçut, il s'avança vivement vers moi et me prit les deux mains d'un air tellement ému qu'il n'avait plus besoin de parler pour m'apprendre la vérité.
« Mort ? » murmurai-je.
« Non, mais bien mal, viens vite !» Dans le trajet, il me dit que mon père avait eu un évanouissement prolongé, qu'il avait recouvré sa pleine connaissance, mais que, dans quelques heures, les dernières racines de vieux chênes seraient brisées. Lorsque j'entrai, désolé, dans sa chambre, je le trouvai dans son fauteuil, près de la fenêtre ouverte. Il voulait, je pense, donner un dernier regard aux grands arbres et aux vieux jardins échevelés. Son visage était calme, mais avec une fugitive expression troublante, indéfinissable, à laquelle mon inexpérience elle-même ne pouvait pas se tromper. Quel visage heureux quand il me vit entrer! Je résistais au mouvement qui m'entraînait à lui crier de ne pas me quitter, lui, ma seule affection, lui, le père, l'ami qui avait entouré mon enfance et ma jeunesse d'une tendresse si profonde. Longtemps nous gardâmes le silence. Il craignait de s'attendrir, et moi, au milieu de mes larmes, je ne pouvais pas parler. Enfin, son regard affectueux fixé sur moi, il me dit « Ma chérie, ton vieux père part bien inquiet. Je crois qu'il y a beaucoup d'ombre dans ta vie. »
« Il y en a une bien sombre en ce moment, » dis-je en laissant éclater ma douleur. « Oh, père, est-ce donc vrai ?»«
Bien vrai, mon enfant chérie. Sois calme, ne pleure pas. Tu savais bien que j'étais arrivée à l'extrémité du chemin. »
« Oui, mais je ne voulais pas le croire » m'écriai-je.
Il me laissa quelque temps à moi-même, puis il reprit tristement. « Le vase est si plein qu'il déborde avec violence. Comme tu as l'air triste et découragée depuis quelque temps, Geneviève. Mais tu es de celles qui ne disent rien. » Il m'avait fallu souvent un effort extrême pour ne pas détendre auprès de lui mon cœur oppressé, et voilà que les dernières heures auxquelles j'avais voulu laisser une paix complète étaient troublées par une inquiétude poignante. Je regardais, navré, le vieux pastel qui ne m'avait jamais paru plus poétique. Le soleil glissait ses derniers rayons entre les ombres allongées et les massifs remplis de plantes surannées. Des passeroses dressaient de tous côtés leurs lourdes torches, couvertes jusqu'à l'extrémité de fleurs aux nuances variées. Mon père, qui avait pour elle une véritable passion, les avait laissées se semer elles-mêmes indéfiniment à l'aventure. Dans leur fantaisie folle, elles avaient couru se poser dans chaque coin, au milieu des pelouses, jusque dans les allées. Pourquoi donc tant de vie autour de moi, si elles ne pouvaient rajeunir la vieille existence qui m'était si chère? 2 heures passèrent. Le prêtre était venu. Mon père avait accompli simplement les derniers actes religieux d'une vie qui avait été droite, et, de nouveau, sur sa demande, nous étions seuls. De la fenêtre, je voyais les vieux domestiques groupés dans le jardin, parlant bas, d'un air consterné. Méran marchait à petits pas saccadés dans une allée. De temps en temps, il jetait un regard sur nous et, d'un geste sec, passait la main sur ses yeux. Dans la chambre à côté, j'entendais le chuchotement de la fine et de Madame de Sévelines qui échangeaient leurs impressions. Mon père, les yeux fermés, respirait plus péniblement. « Tout est bien paisible, Geneviève, » me dit-il en les ouvrant soudain et m'attirant à lui. « Si j'étais convaincue qu'il en est ainsi dans ta vie... »«
J'ai un bon mari et un enfant, cher père, » balbutiai-je.
« Ton enfant, oui. » murmura-t-il, et il envoya un imperceptible sourire à cette dernière joie de sa vieillesse. « Je crois en tout cas, reprit-il d'une voix plus faible, que ma fille chérie a le ressort qui fait les vaillantes si son appui naturel lui manquait un jour. « Ne vous inquiétez pas, dis-je penché sur lui, l'appui ne me manquera pas. » Il avait la tête appuyée sur mon bras et pressait mon autre main dans les siennes. Je n'avais pas encore vu la mort et je n'aurais jamais cru à une fin aussi calme, aussi sereine. Les émanations parfumées qui, le soir, s'échappent plus vite de la terre et des plantes, montaient jusqu'à nous. Il n'y avait plus qu'un jour faible comme la vie qui disparaissait du regard fixé sur moi. Un silence profond, absolu. Puis, avec le bruit d'un vol d'oiseaux effarouché, Les vieux rideaux tremblèrent un instant sous un vent frais qui passa dans la chambre silencieuse, emportant avec lui le dernier souffle que j'épiais.